Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération, porte-parole de la campagne présidentielle de Yannick Jadot et conseiller régional. Bonsoir.
Bonsoir.
Benjamin Lucas, lors de son allocution la semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé son intention de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Vous contestez cette décision, mais que répondez-vous aux personnes qui pensent finalement que les énergies renouvelables ne pourront pas pour l'instant remplacer l'électricité nucléaire ?
Ce qui est certain, c'est que le temps de construire ces centrales, on sera déjà dans le dépassement du délai qui nous est fixé par le GIEC pour engager la transition énergétique. Donc ce n'est pas non plus, ce n'est pas une réponse aujourd'hui, la construction de nouvelles centrales, à ce qu'est l'urgence climatique et l'urgence de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a des modèles à travers l'Europe qui montrent, notamment en Allemagne, qu'on peut se passer du nucléaire.
On peut se passer du nucléaire, mais en même temps, les besoins des Français en énergie est immense. Comment on passe du nucléaire à l'énergie renouvelable ?
On investit déjà, on regarde les milliards qui sont mis aujourd'hui, par exemple, dans le nucléaire, qui est une énergie coûteuse, qui ne fonctionne pas. Regardez Flamanville, le fiasco et la gabegie que c'est. On pourrait investir cet argent-là dans du renouvelable. Il y a des pays qui le font, qui engagent cette transition-là. Il y a d'ailleurs eu des engagements européens qui ont été pris par un certain nombre de pays à la COP26 à Glasgow de ce point de vue-là. Donc voilà, on est aujourd'hui dans un moment où il faut, à la fois développer une offre renouvelable en termes de production d'énergie, mais aussi tout faire pour limiter un certain nombre de consommations, mais par exemple agir contre les passoires thermiques, par exemple agir pour la rénovation des logements. C'est donc une politique qui tient les deux bouts, j'allais dire, si tu peux m'exprimer ainsi, de la question.
Est-ce qu'il faut aller aussi vers une forme de sobriété énergétique, que les Français apprennent à consommer moins d'électricité, pas seulement à lutter contre les passoires thermiques ?
Bien sûr, il faut qu'on regarde dans chaque domaine, dans chaque secteur d'activité, pas simplement les individus, les personnes physiques, mais aussi les entreprises, etc. Comment on peut, là où c'est possible, réduire, avoir de la sobriété pour réduire nos consommations d'énergie.
Alors, quel bilan faites-vous de la COP26, Benjamin Lucas ?
Écoutez, pour l'instant, encore une fois, il y a une forme de rendez-vous manqué, si je puis dire, entre les gouvernants, les dirigeants du monde et l'aspiration de la génération climat, l'aspiration plus largement partagée à travers le monde à répondre à l'urgence climatique. Et donc on voit, malheureusement, il y avait les lobbies du pétrole, des énergies fossiles étaient très présents. On a vu beaucoup de greenwashing. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes sur une trajectoire qui ne permet pas de déjouer les scénarios du pire. Et donc il va falloir bien changer les chefs d'État, et ça commencera en France le 10 et 24 avril par l'élection du premier président écologiste de la République française, que sera Yannick Jadot.
Mais précisément, que ferait Yannick Jadot pour freiner le réchauffement climatique ? Est-ce que c'est une transformation globale qu'il faut ?
Bien sûr, on ne changera pas la trajectoire aujourd'hui qui est celle du réchauffement climatique. On ne combattra pas les causes et les effets du dérèglement climatique sans changer profondément ce qu'est notre modèle économique, notamment. Dans la palette de mesures ou d'actions, il y a évidemment des mesures internationales. Yannick Jadot propose un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Je crois que c'est une mesure très importante. Mais il y a aussi tout le combat qu'il mène au Parlement européen depuis des années contre les traités de libre-échange qui ne fixent aucune barrière environnementale ou sociale, qui en plus de détruire la planète et notre santé, abîme les droits sociaux à travers le monde et met en concurrence les salariés les uns avec les autres. Mais évidemment, il faudra changer de modèle. Quand on a un modèle obsédé par le petit point de PIB en plus à la fin de l'année au détriment de son impact environnemental ou social, on voit bien que ce n'est pas viable et que ça ne peut pas durer comme ça.
Il faudra s'inspirer finalement de ce qu'on a connu sous le Covid, limiter les vols des avions par exemple, et puis réhabiliter le chemin de fer.
Bien sûr, c'est absurde. Ces dernières années, on a détruit, on a supprimé des lignes, notamment de trains de nuit, avec Karima Delli, députée européenne écologiste au Parlement européen, présidente de la commission transport. On est en train d'en rétablir aujourd'hui. Mais oui, il faudra par exemple, il y a des absurdités. Imaginez-vous qu'il y a des lignes intérieures en France et vous pouvez aller de Paris à Bordeaux en avion. Ça n'a pas de sens quand aujourd'hui vous avez des trains qui permettent de se rendre facilement d'une ville à l'autre et dans des délais qui sont extrêmement raisonnable. Il faut là aussi retrouver un peu de raison. Ça ne veut pas dire se priver de quoi que ce soit, ça veut dire retrouver un peu de raison et de rationalité, y compris dans nos choix en matière de transport.
Benjamin Lucas, les Français doivent se préparer à abandonner l'usage de leur voiture thermique à plus ou moins brève échéance, mais tout cela a un coût. On a l'impression que l'écologie, tout de même, ça va coûter cher, surtout aux Français qui ont le pouvoir d'achat le plus bas.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra se poser la question de qui paye la transition écologique. Et c'est pourquoi, quand vous parliez tout à l'heure de changement de modèle, finalement, il ne peut y avoir de transition écologique sans un choc de justice sociale, de partage des richesses. C'est tout le sens du projet de Yannick Jadot, avec l'ISF climatique notamment. Et c'est tout l'objectif aussi de ce fameux 13e mois écologique, c'est-à-dire ce qu'on veut rendre en pouvoir d'achat nos concitoyennes et nos concitoyens grâce aux économies d'énergie, grâce à la lutte contre les passoires thermiques, grâce à la rénovation des logements. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de transition écologique possible sans justice sociale. C'est par le partage de la richesse, par la justice sociale que nous ferons la transition écologique et pas autrement.
Benjamin Lucas, Yannick Jadot a proposé d'interdire la chasse pendant les vacances et le week-end. Ça a été finalement la première fois qu'une proposition du candidat écologiste a été discutée par tous les autres candidats. Ils ont été obligés de se positionner autour de cette proposition. C'est cela la campagne que vous voulez faire, que les thèmes écologistes s'imposent dans le débat présidentiel ?
C'est sûr, nous refusons de nous positionner par rapport aux obsessions d'un Zemmour ou d'une Le Pen. Nous refusons d'aller sur des questions qui ne sont pas celles que se posent aujourd'hui les Françaises et les Français qui viennent à notre rencontre lors de cette campagne, de ce début de campagne. Les obsessions identitaires, les débats farfelus sur les et dangereux d'ailleurs sur les prénoms, etc. Nous voulons poser des questions qui intéressent les Françaises et les Français. La proposition sur la chasse, par exemple, elle répond à une demande quasi unanime. 7 Français sur 10 sont d'accord avec la proposition de Yannick Jadot, qui est de partager la nature, d'accéder à la nature le week-end. Et il y aura évidemment, bien sûr, dans cette campagne, des grands rendez-vous pour débattre des questions sociales, des questions de jeunesse, des questions de pouvoir d'achat. Voilà, nous voulons faire campagne sur ce qui est à la fois les réponses aux urgences du présent que se posent nos concitoyennes et nos concitoyens, mais aussi ce que sont les grands défis de l'avenir, et notamment celui de la transition écologique.
Benjamin Lucas, comment réagissez-vous à la décision d'Emmanuel Macron de durcir les conditions d'indemnisation des chômeurs?
Ce quinquennat Macron aura été marqué par la brutalité sociale la plus dure, la plus violente. Le problème aujourd'hui, ce qu'il faut combattre, c'est le chômage, pas les chômeurs. Mais on voit bien qu'Emmanuel Macron, comme sur le nucléaire, comme sur d'autres sujets, en fait, il est enfermé dans des dogmes du passé. Finalement, il est un président de droite parmi d'autres et le continuateur de l'œuvre de Nicolas Sarkozy. Aller traquer les chômeurs, aller renforcer la précarité, sa réforme de l'assurance chômage, elle va plonger dans la précarité des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui. On voit bien toute l'injustice. En réalité, c'est une stratégie, c'est aller chasser à droite de la part d'Emmanuel Macron, mais c'est assez indigne quand on voit ce qu'est la situation sociale du pays aujourd'hui et ce que sont les urgences pour un certain nombre de nos concitoyennes et nos concitoyens qui sont au chômage.
Parmi les arguments du gouvernement, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus et qu'il faut inciter les chômeurs à accepter des offres raisonnables d'emploi. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument ?
Que ce n'est pas vrai qu'il y a aujourd'hui plus de chômeurs que de postes vacants et que donc il faut d'abord s'attaquer au chômage. Et moi je crois qu'il y a des réponses qui sont aujourd'hui des réponses pragmatiques, qui sont celles du partage du travail, par exemple. Quelle est la dernière mesure qui, dans ce pays, a créé massivement de l'emploi ? Ce sont les 35 heures. C'est le partage du temps de travail. Or, depuis maintenant presque 20 ans, on s'échine à détricoter, à détruire les mesures de partage du temps de travail. Donc, je crois que le gouvernement serait plus inspiré de se tourner vers des solutions qui fonctionnent, vers des solutions qui sont justes, plutôt que vers, finalement, des discours, des slogans, des effets d'annonce qui, non seulement ne fonctionnent pas, mais en plus sont injuste et brutaux socialement.
Les patrons de restaurants ont le plus grand mal à recruter en ce moment. Quelle serait la réponse ? Améliorer les conditions de travail ? Augmenter les salaires ?
Bah, bien sûr, il faut augmenter les salaires, il faut permettre à celles et ceux qui travaillent dans ce milieu qui a ces difficultés de vivre dignement de leur travail et leur permettre d'avoir des conditions qui sont évidemment bien plus dignes aujourd'hui. C'est comme ça aussi que on crée de l'attractivité pour un secteur. C'est évidemment plus comme ça qu'on va créer de l'emploi ou trouver preneurs pour des offres vacantes que en traquant, en stigmatisant et en frappant les chômeurs.
Benjamin, Lucas, vous avez longtemps défendu le revenu universel. Est-ce que cette proposition de Benoît Hamon en 2017 est toujours d'actualité avec Yannick Jadot ?
Alors oui, je continue à défendre le revenu universel d'existence parce que je crois qu'il est une réponse à ce que sont les grands défis du moment, la lutte contre la pauvreté, les inégalités, le besoin de repenser notre société et de valoriser ce qui fait aujourd'hui du lien, la vie associative qui permet de partager la richesse. C'est quand même un choc de répartition et de partage de la richesse, le revenu universel. Yannick Jadot a une proposition qui est très directement inspirée de ce que nous avions formulé dans la campagne de 2017 autour de Benoît Hamon, campagne à laquelle participait évidemment Yannick Jadot, qui est le revenu citoyen, qui est notamment cette capacité pour les jeunes à aller conquérir leur autonomie dès l'âge de 18 ans. Donc oui, il y a évidemment pas la même mesure, mais d'ailleurs nous-mêmes nous avions changé entre la primaire et la présidentielle, nous n'avions pas exactement le même dispositif, mais il y a oui, dans le projet des écologistes et dans le projet de Yannick Jadot, des mesures et des propositions qui s'inspirent assez clairement de ce qu'est le revenu universel d'existence.
En tant que député européen, Yannick Jadot s'est opposé aux multinationales. Président de la République, est-ce qu'il pourra offrir une alternative à l'ubérisation du travail ?
Oui, d'abord, vous l'avez rappelé, le combat de Yannick Jadot au Parlement européen contre les traités de libre-échange, contre la dérégulation, la casse du droit du travail, est un combat qu'il mène depuis maintenant des années. Et puis les écologistes, comme le reste de la gauche, défendent, puisque vous parliez d'échelle européenne, c'était le cas d'un vote il y a quelques jours, me semble-t-il, aussi la question de l'harmonisation sociale, de garantir un salaire minimum en Europe qui permette la dignité, etc. Donc oui, il y a aujourd'hui, par le droit du travail notamment, la protection des salariés, par l'action plus résolue de l'État à réguler, à encadrer. Il y a évidemment une volonté de combattre l'ubérisation du travail et puis la précarisation à grande échelle qui s'opère avec.
Benjamin Lucas, Emmanuel Macron a enterré sa réforme des retraites, mais il a laissé comprendre qu'elle serait relancée s'il était réélu président. Yannick Jadot, président, est-ce que l'âge de la retraite va changer ?
Alors d'abord, Emmanuel Macron n'a pas enterré sa réforme des retraites, il l'a simplement mis sous le tapis le temps de l'élection présidentielle, parce qu'il a compris, au regard de ce qu'ont été les mouvements sociaux d'ampleur, avant la crise Covid, nous étions mobilisés des centaines de milliers contre cette réforme des retraites, il a compris qu'elle était impopulaire et donc il veut la faire passer finalement après une hypothétique réélection. Mais le projet qu'il a, ce projet de régression sociale, reste le même. Non, nous disons simplement qu'il n'y a pas d'automaticité entre le fait de vivre plus longtemps, globalement, et de travailler plus longtemps. D'abord parce que il y a encore une inégalité, j'allais dire, la plus horrible, l'inégalité de durée de vie et d'espérance de vie. Et donc, tout le monde ne vit pas plus longtemps, et que souvent, travailler plus longtemps veut dire ne pas forcément vivre plus longtemps. Là aussi, il faudra un choc d'égalité, il faudra un choc de partage, et on ne peut pas réfléchir comme le fait Emmanuel Macron avec, finalement, les logiques du passé qui ont démontré leur obsolescence.
Benjamin Lucas, comment parvenir à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ? Est-ce qu'il faudra des mesures incitatives ?
Incitative et répressive. Yannick Jadot, dans son projet, s'inspire de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Et il y a des pays qui ont réussi à cheminer plus rapidement que nous vers l'égalité salariale parce qu'ils ont une politique beaucoup plus dure vis-à-vis des entreprises. Et je crois que là encore, on ne peut pas se permettre d'attendre. C'est comme sur la question climatique, finalement. On ne peut pas attendre que les grands groupes, les entreprises aient la volonté d'avancer. Bien sûr qu'il faut qu'elles aient la volonté d'avancer. Bien sûr qu'il faut les aider quand elles veulent avancer et qu'il ne faut pas être dans une espèce d'opposition stérile et brutale. Mais il faut, sur un certain nombre de choses qui sont essentielles, et l'égalité salariale en fait partie, imposer l'égalité et contraindre à l'égalité, parce qu'il n'est pas normal qu'en 2021-2022, on soit encore à négocier, à quémander pour l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans les rémunérations.
Benjamin Lucas, Le Figaro Magazine a fait sa une sur ce thème « École, comment on endoctrine nos enfants » avec ce sous-titre « Antiracisme, idéologie LGBT, décolonialisme ». J'aimerais savoir ce que vous inspire cette couverture.
Bon, alors cette couverture, elle est non seulement grossière et pathétique, mais je crois qu'il ne faut pas la prendre à la légère. La pression aujourd'hui qui est exercée par beaucoup dans la classe politique, hein, pour surveiller, censurer, intimider les enseignants et les universitaires, est colossale. Et c'est toujours la même méthode qui est celle de l'extrême droite et finalement des contre-révolutionnaires. C'est de faire croire qu'il y a un endoctrinement, qu'il y a une pensée unique pour mieux endoctriner justement et pour mieux imposer sa pensée. Moi, je crois qu'il faut faire bloc autour de la communauté éducative pour défendre sa liberté d'enseignement, pour défendre aussi une école républicaine. Parce qu'en fait, de quoi parle-t-on ? On parle du fait d'enseigner à l'école l'égalité entre les femmes et les hommes. On parle du fait de combattre à l'école contre les discriminations et l'homophobie. On parle de lutter à l'école contre le racisme, l'antisémitisme, la haine. Eh bien moi, j'en suis très fier que l'école de la République, elle soit justement une école républicaine qui mette en pratique ce qu'est la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. C'est très dangereux ce qui se passe. Et d'ailleurs, Monsieur Blanquer et Madame Vidal, avec tout leur délire sur l'islamo-gauchisme, le wokisme, sur un ensemble de termes, soit qu'ils inventent, soit qu'ils ne maîtrisent pas, ont accompagné la fachosphère dans son travail de casse, finalement, d'offensive contre l'école républicaine. C'est extrêmement dangereux, et en tout cas, nous voulons faire bloc avec toute la communauté éducative pour la défendre dans un moment où elle est attaquée. On voit bien que l'école, là, est un symbole pour celles et ceux qui, finalement, veulent fracasser ce que sont les valeurs de la République.
Au-delà de l'école, Benjamin Lucas, certains Français de gauche, sociaux-démocrates, sont sincèrement opposés au racisme et à l'homophobie, mais ils se demandent si certaines associations ne vont pas trop loin sur ces questions. Ils sont parfois heurtés par l'écriture inclusive ou par la radicalité de Sandrine Rousseau, qui est aux côtés de Yannick Jadot. Que répondez-vous à ces Français de gauche qui sont inquiets ?
Que moi, j'entends et je comprends toutes les opinions, pourvu qu'on ait un débat rationnel et apaisé. C'est pour ça que je distingue des Françaises et des Français qui partagent les valeurs d'humanisme, d'antiracisme, de lutte contre les discriminations, mais qui, ici ou là, peuvent considérer qu'il y a des choses qui finalement, soit les dépassent, soit qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'acceptent pas. C'est tant qu'on a un débat rationnel sur ce sujet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, on a, mais par exemple, autour de l'écriture inclusive, qui est quand même pas grand-chose, c'est manifester à travers des écrits l'égalité entre les femmes et les hommes. Je peux comprendre que des gens trouvent ça compliqué, etc. Mais de là en faire le symbole d'un déclin de la société, comme le font la droite et l'extrême droite, je crois que c'est exagéré et que c'est quelque chose d'abusif. Donc je pense là aussi que ce qui compte, c'est moi, je ne souhaite pas imposer ce que sont parfois certaines positions radicales qui peuvent être les miennes. Si tant est, pour moi, elles m'apparaissent comme assez modérées ou légitimes, mais tant pis. C'est pas de l'imposer, c'est d'avoir des débats sereins et rationnels. Par exemple, sur la question de la lutte contre les discriminations et les inégalités, c'est bien aujourd'hui qu'on intègre dans l'université, dans l'école, dans la société, oui, qu'on prenne conscience d'un certain nombre d'inégalités et de phénomènes qui entretiennent le racisme. C'est important qu'on ait un regard lucide, par exemple, sur ce qu'a été la colonisation et sur ce qu'ont été les crimes de la colonisation. C'est important, il faut qu'on puisse le faire sereinement. Et moi, je refuse celles et ceux qui mettent de la brutalité, de la violence dans ce débat pour accuser, pour inquiéter, pour affoler les Françaises et les Français. On doit pouvoir, une grande nation comme la France, une grande république comme la France, doit pouvoir débattre de son histoire, de sa conception de l'égalité, de sa façon de mettre en œuvre l'égalité et de lutter contre les discriminations de façon rationnelle et apaisée. C'est ce que nous essayons de faire avec Yannick Jadot.
Merci Benjamin Lucas, je rappelle que vous êtes coordinateur national de Génération, porte-parole de la campagne présidentielle de Yannick Jadot et conseiller régional. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.